Bonsoir. Hier, dans Dialogue entre Congolais, nous nous sommes posé la question de savoir s'il n'était pas préférable d'organiser des élections, même si elles ne seraient pas parfaites, au lieu de ne pas du tout les organiser, comme l'avait affirmé Louis Michel, le commissaire européen au développement et l'aide humanitaire. Cela a suscité beaucoup de réactions de nos auditeurs. C'est ainsi que nous poursuivons avec ce sujet, mais cette fois-ci à l'est du pays, en nous posant des questions suivantes. Comment faire avancer le processus électoral malgré l'insécurité à l'est du pays et celle de savoir si la tenue des élections est une solution au problème de l'insécurité à l'est de la RDC. Pour en discuter, nous recevons le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, M. Didas Kaningini, que nous avons en ligne depuis Bukavu au Sud Kivu. Didas Kaningini, bonsoir. Voilà, nous aurons également le président de la société civile du Nord Kivu, M. Jason Lunene. Jason Luneno, bonsoir. Au studio, nous aurons également M. Sabin Banza, vice-président de la Ligue des électeurs, une ONG spécialisée dans l'organisation des élections. Enfin, le quatrième invité, c'est vous, nos auditeurs, qui pouvez participer directement à cette émission en envoyant vos questions par SMS au 081 051 57 78 et par téléphone au 081 890 66 78. Nous allons d'abord nous rendre à Bukavu dans le sud Kivu, où notre correspondante permanente à Bukavu, Broy Munganga, nous donne la situation sécuritaire telle que se présente aujourd'hui dans le sud Kivu par rapport à l'opération d'enrôlement dans cette partie du pays. Suivant donc cet entretien qu'on a eu avec notre consoeur Karine Kakasi. D'abord, elle nous situe les territoires qui connaissent des problèmes d'insécurité ces derniers temps avec la présence des groupes armés.
Karine, nous pouvons citer particulièrement les territoires de Walungu, des Kabare, des Mwenga et des Shabunda, et bien sûr pour ne citer que cela.
Est-ce que les opérations d'enrôlement et d'identification des élections ont débuté dans ces différents territoires?
Oui, pour certains territoires, les opérations ont commencé samedi dernier, tandis que pour d'autres, les centres ont ouvert depuis le début de cette semaine, soit lundi.
Comment se déroulent ces opérations de ce côté-là?
Disons que les habitants s'enregistrent progressivement. Les effectifs jusqu'à ce mercredi, par exemple, à Mwenga, étaient des 189 personnes. Kabare, nous avons 7298 et à Walungu, 2563. Notons cependant, Karine, que pour ces derniers territoires, la CIA a commencé par un seul groupement. Ce n'est que ce matin qu'une vingtaine d'autres centres ont été ouverts dans 5 autres groupements. Nous avons remarqué que dans ces territoires, la CIA pose prudemment les pieds car certaines zones posent encore des problèmes de sécurité.
Pouvons-nous savoir quelles sont ces zones?
D'après la société civile de Walungu, les axes les plus insécurisés sont pratiquement tous les groupements qui avoisinent les montagnes et les forêt des Ninga, connue comme étant le chef des combattants auto-rwandais. Il s'agirait entre autres des groupements d'Izege, Ikoma, Kanyola, Mulamba et Tubimbi. Il faut dire que bien avant les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans ces territoires, les habitants de ces zones se posaient déjà des questions sur la façon dont allaient se dérouler ces opérations d'enrôlement.
Et que pensent les autorités de la province et la CEI de ce problème?
Les autorités ici sont conscientes de ces problèmes, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, pour rassurer la population de Walungu, très inquiète pour la suite du processus. Le colonel Lokanga a annoncé lui-même cette décision du général Agoloa, commandant de la 10e région militaire, c'était lors d'une adresse publique.
Alors, le commandant de la 10e région militaire m'avait autorisé à ce que je puisse appuyer la police, que je puisse mettre les militaires là où la police ne peut peut-être pas arriver. Parce que nous avons les moyens, nous avons les armes, nous avons les munitions pour défendre ce qui pourrait arriver aujourd'hui ou demain. C'est ce qui s'est fait et de demain, peut-être ou après-demain, vous verrez qu'en dehors des policiers, dans des coins, un petit recoin, des milliers de militaires pour la protection de la population que j'estime très heureux et que je voudrais les voir sourire par-ci, par-là.
En plus, Karine, selon nos informations à Walungu, le commandant de la 10e région a donné des injonctions pour que les patrouilles militaires s'intensifient sur le terrain et même du côté de la MONUC, des mesures ont été prises dans ces sens.
Mais Breuil, on sait qu'il y a des coins où les FDLR sont encore maîtres des lieux. Comment va-t-on procéder dans ces zones?
En effet, Karine, et un des exemples que je peux donner est le groupement des Toubimbi, toujours en territoire de Walungu. Les FDLR contrôlent effectivement une grande partie de ces groupements.
Au niveau de Walungu, na Bozale, na Ninja.
Au niveau de Walungu, de Bourale, de Ninja, nous nous demandons comment les opérations d'enrôlement vont se passer au moment où les bandes armées continuent à enlever des personnes de ce côté-là. Comment est-ce que les habitants de ces zones vont se faire enrôler? Est-ce que les autorités de ce pays sont devenues des complices de ces Rasta ou de je ne sais pas qui?
Selon les autorités de ces territoires, la CI Sud Kivu pense demander aux habitants des Toubimbi de se faire enrôler dans un autre groupement du même territoire, donc pour éviter des incidents qui pourraient se manifester avec la présence de ces combattants autour rwandais. Mais le gouverneur à l'intérim du Sud Kivu, Didas Kaningini, refuse que les populations se déplacent. Selon lui, des centres d'enrôlement des électeurs doivent y être installés malgré la présence des FDLR. Comme Karine, le gouverneur à l'intérim du Didas Kaningini, est l'invité des dialogues entre Congolais, il pourrait peut-être mieux donner les raisons qui les poussent à refuser ces déplacements vers un autre groupement. Et il pourra bien sûr également répondre aux questions sur les différentes mesures déjà arrêtées pour sécuriser le processus électoral ici au Sud Kivu. Voilà Karine, merci.
Merci beaucoup Brimunganga et bonne soirée à Bukavu.
Merci et à vous également.
Voilà, nous revenons ici dans ce studio. Nous attendons Sabin Banza, vice-président de la Ligue des électeurs qui n'est pas encore là, et Didas Kaningini, gouverneur du intérimaire du Sud Kivu, n'est pas aussi en ligne. Peut-être que d'un moment à l'autre, nous allons les joindre. Mais en attendant, nous avons en ligne Jason Luneno, président de la Société civile du Nord Kivu. Bonsoir, Jason.
Bonsoir.
Voilà, au Nord Kivu, sur les 2,464,763 électeurs potentiels attendus, seulement 151,851 se sont déjà fait enrôler. Pour mieux comprendre l'évolution de l'enrôlement au Nord Kivu face à l'insécurité, suivons d'abord cet entretien qu'a eu notre confrère Dieudonné Bagalo avec notre conseillère Mireille Bukasa. Où en est-on avec l'opération d'enrôlement dans le Nord Kivu? Réponse dans cet entretien de notre confrère Dieudonné Bagalois avec notre conseillère Mireille Bukasa.
Le 21 août, l'opération a surtout commencé à Goma. Là, pas de problème de sécurité. La police est très présente dans le bureau et effectue bien son travail. Et au fur et à mesure, la CI installe des bureaux dans le reste de la province. Par exemple, à Rutshuru, les bureaux ont été installés quelques jours après le début de l'opération. Et à Walikale et Masisi, on vient tout juste d'ouvrir des bureaux, donc quand même 12 jours après le début de l'opération.
Alors Dieudonné, quels sont les endroits sensibles où l'installation de bureaux d'instruction est problématique?
On peut couper la province en deux, le Grand Nord, c'est-à-dire Beni Butembo et le Petit Nord, Goma, Masisi, Walikale et Rutshuru. Les endroits problématiques du Grand Nord sont les environs de Kanyabayonga, Kaina, Mangurijipa et Wacha, où se trouvent des FDLR et des Maïmaï incontrôlés, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas participer au brassage. Et là, il n'y a pas de bureau pour l'instant, plus à cause du manque de kit que de l'insécurité. Mais des bureaux, ils sont prévus, et en effet, l'insécurité va être un problème. Dans le Petit Nord, les deux territoires les plus problématiques sont ceux de Walikale et de Masisi à l'intérieur de la province. Ce sont des territoires qui sont difficiles d'accès, il y a peu de routes. La MONUC y est peu présente, tout simplement pour une raison d'infrastructure. Et ces deux territoires ne sont pas entièrement sous contrôle des FARDC. D'ailleurs, il y a tout juste 5 jours, il y a eu un affrontement entre Maïmaï et FDLR à Remeka, une localité de Masisi située à 75 km de Goma.
Et où en sont les bureaux d'inscription dans ces deux territoires?
Eh bien, 10 centres ont ouvert cette semaine à Masisi Centre. Au total, près de 1400 personnes se sont déjà inscrites. Et puis à Walikale, un centre a ouvert ce mercredi. En une journée, 66 personnes se sont inscrits. De plus, les centres qui se sont ouverts sont à Walikale Centre et Masisi Centre. Donc, dans les villes, dans le reste de ces deux territoires, il n'y a aucun bureau d'inscription. Donc, vous voyez, ça n'est vraiment pas beaucoup, hein, à moins que d'autres centres soient ouverts et que l'opération soit prolongée. Beaucoup de gens ne vont pas pouvoir s'inscrire.
Est-ce que la CEI prévoit d'ouvrir d'autres centres d'inscription en dehors de ces grandes localités?
Oui, puisque la CEI prévoit d'ouvrir plus de 800 centres et on en est à 174. Mais dès le départ de la coordination de la CII ici au Nord-Kivu, elle a prévenu qu'aucun centre ne serait ouvert dans les endroits qui ne sont pas sous contrôle FRDC. Et on estime que cela représente environ 40% de toute la province. Donc, cela veut bien dire qu'il y a de nombreux endroits où il n'y aura pas de bureau d'inscription.
Dieudonné, est-ce qu'on peut parler de processus démocratique quand près de 40% du territoire risque de ne pas avoir de bureau d'inscription?
On peut en effet se poser la question, mais on peut d'une part argumenter que la majorité de la population se trouve dans les centres urbains, là où il y a des centres d'inscription. Et d'autre part, dans ces centres urbains comme Goma, la mobilisation pour aller s'inscrire est très importante. Mais pour finir sur une note positive, je vous rappelle que c'est à Goma qu'a été battu le record national du nombre de personnes inscrites en une journée et sur un ordinateur. C'était plus de 150, si je me rappelle bien.
Voilà, nous retournons ici au studio. Monsieur Jason Lunino, vous êtes en ligne depuis Goma, dans le Nord Kivu. Alors, est-ce que vous avez suivi le reportage de notre consoeur Broy Munganga au Sud Kivu sur les problèmes d'insécurité et l'évolution du processus électoral? Est-ce que vous pensez qu'il y a des similarités avec la situation dans le Nord Kivu?
Oui, tout à fait. Il y a des similarités dans le Nord Kivu. Les situations qui se passent dans la province du Sud Kivu sont les mêmes dans la province du Nord Kivu. Peut-être qu'au Nord Kivu, ce n'est pas beaucoup plus exprimé comme cela se passe dans le Sud Kivu. Je vous dis en fait que la sécurité est toujours menacée par les miliciers réfractaires au désarmement. Donc, cela, donc, qui sont là, la présence de plusieurs rebelles, donc les Hutus, les FDLR et autres groupes ou bandes armées en dévastation dans les différents territoires ici, dans Rutshuru, Nyiragongo, dans Masisi et dans Beni, plus particulièrement dans Nalu. Donc dans ce milieu-là, il y a beaucoup de mouvements de forces négatives. Et nous disons du côté de la société civile, si réellement les opérations qui sont en train de se faire aujourd'hui, vont très bien se passer et arriver à de très bons résultats. Parce que je vous apprends que dans certains points, par exemple dans les territoires de Masisi, où il y a eu des menaces très sérieuses. Donc le processus, je peux dire qu'il est pris en otage par les FDLR qui menacent la population locale, qui est appelée à s'enrôler, mais ces FDLR disent que si la population locale s'enrôle, il faut aussi qu'on leur donne la possibilité, le privilège de s'enrôler comme les autres populations, donc donc les populations congolaises.
Quelle est la position des autorités de la province face à ces réclamations de FDLR?
La position des autorités de la province, je ne peux pas répondre à leur place. Je sais tout simplement que les rapports nous avaient été donnés au chef du territoire de Masisi les mois passés. C'était par le chef du secteur de Katoï, à présence de l'administrateur du territoire de Masisi. Celui-ci était venu nous donner rapport, soit disant que les FDLR menacent très sérieusement le processus électoral. Alors, je ne sais pas la suite qui a été réservée là-dessus, mais nous pensons que les autorités militaires et politiques devraient prendre les choses à main pour résoudre cette question une fois pour toutes, d'autant plus que la population congolaise a droit aujourd'hui de participer activement à la refondation de leur État. Donc, c'est une occasion à ne pas rater.
Et je rappelle à nos auditeurs que nous avons tenté d'avoir aussi en ligne le gouverneur du Nord Kivu, M. Serufuli, mais ça n'a pas été possible. Donc, c'est lui, en principe, qui pouvait répondre à certaines des questions que nos auditeurs se posent. Voilà, nous avons également une opinion de M. Roger Matabao, qui nous écrit par SMS à partir de Walungu dans le Sud Kivu. Voici sa pensée. Si on attend la fin de l'insécurité à l'Est pour organiser les élections, on peut attendre longtemps. Ces élections sont possibles si elles ont eu lieu sous d'autres cieux, dans les conditions semblables aux nôtres. Exemple, en Irak. Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée, de cette opinion de Roger Matabao? Parce que si on attend la fin de l'insécurité, les élections ne pourront peut-être pas être organisées dans ce pays.
Ah, il peut peut-être avoir raison, d'autant plus que nous ne pourrons pas avoir la possibilité d'avoir des élections saine. Je pense que la meilleure des choses qui nous reste, c'est d'organiser d'abord les élections, Il y aura certainement certaines imperfections suite à ce problème d'insécurité, ceci ou cela. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord d'organiser les élections pour que notre pays puisse d'abord être identifié parmi les pays qui respectent certaines valeurs démocratiques. Je pense que, sincèrement, notre frère Matabaro a raison que dans les temps dans lesquels nous nous trouvons actuellement, il nous sera très difficile d'organiser les élections de la manière la plus souhaitée possible. Mais au moins, on peut organiser les élections de sorte que nous puissions avoir la possibilité de sortir notre pays de la situation dans laquelle elle se trouve et baliser l'autorité de la démocratie et avoir donc un gouvernement qui est l'émanation du peuple et qui est dévoué au bien public et qui est aussi à l'écoute des attentes populaires.
Mais est-ce que vous pensez-vous qu'il y a risque que une certaine frange de la population soit ne soit pas enrôlée, partant qu'elle ne puisse pas participer aux élections? Est-ce que vous ne trouvez pas que pensez-vous qu'on court ce risque?
Tout à fait, on court ce risque. Moi, j'ai même peur que cette transition ne puisse être plus sollicitée pour une autre prolongation. Dites-moi, nous avons besoin de 2,464,763 électeurs dans la province de Nord-Kivu. Aujourd'hui, bientôt, nous allons terminer deux semaines. Et si nous allons juste à la date butoir de ce du processus d'identification et d'enrôlement, vous comprendrez que nous arriverons à la date butoir sans que nous n'ayons réalisé même 1 million d'enrôlés. Vous allez comprendre que nous avons, au moins dans la ville de Goma, au moins sur 47 centres d'inscription, nous n'avons qu'une dizaine. Il y a un personnel impayé 10 jours après. Il y a un seul kit par centre d'inscription au lieu de deux.
Mais
il y a beaucoup de problèmes.
Qu'est-ce qui explique qu'à deux semaines du début des opérations d'enrôlement dans le Nord Kivu, sur 2,464,000 électeurs potentiels attendus, seulement 151,851 se sont fait enrôler, c'est-à-dire moins de 10% du chiffre attendu par la CEI. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ce sont des problèmes logistiques liés à l'insuffisance des kits d'enrôlement ou ce sont des problèmes d'insécurité?
Ah non, il n'y a pas un problème de sécurité jusque-là qui puisse être signalé, qui soit à l'origine de ce retard que nous constatons. Ce que nous constatons, c'est que dans tous les centres d'inscription, il y a plein de populations qui viennent s'enrôler. Ce sont des files qui ne s'achèvent pas. Alors, les gens sont en train de passer la nuit dans les centres d'inscription. Et il y a un problème ici de kit. Un seul kit par centre d'inscription, je vous assure, ne va pas résoudre le problème. Et nous risquons d'arriver même à 6 semaines, on peut solliciter même des prolongations. Je pense que le potentiel des électeurs ne sera pas mobilisé pour ces élections.
Donc vous pensez qu'au Nord-Kivu, le problème le facteur qui démobilise un tout petit peu les électeurs potentiels, c'est un problème des kits et ce n'est pas l'insécurité aux alentours dans les différents territoires?
Jamais. Ce n'est pas encore un problème d'insécurité. Je vois la manière dont la CI se déploie sur le terrain. Jusque-là, il n'y a pas encore un problème de sécurité, mais il y a un problème sérieux d'équipe, il y a un problème donc sur un seul kit, une seule machine dans un centre d'inscription qui est sollicitée par 300, 400, 1000 personnes par centre, vous voyez que c'est tout un problème.
Dans le reportage de notre confrère Dieudonné Bagalois, il nous a montré que dans certains territoires, il est pratiquement difficile à la CEI de déployer son personnel et son matériel à cause de l'insécurité. Vous-même, vous avez évoqué les populations qui sont prises en otage par les FDLR qui exigent à ce qu'eux également soient enrôlés.
Moi, je pense que la CEI, si elle avait des possibilités, donc si elle avait suffisamment de kits, elle peut quand même déployer ces kits dans des endroits sécurisés en milieu rural. Et là, on pourrait avoir au moins 2 ou 3 kits dans un centre d'inscription et on aurait la plupart des populations qui viendraient s'enrôler. Mais imaginez, on déploie un centre d'inscription quelque part pour une seule machine et on a difficile d'atteindre le point le plus reculé, mais
les électeurs doivent au moins franchir 30 à 40 km pour aller retirer la carte d'électeur. C'est tout un problème. Comme il y a des coins, des foyers d'insécurité, moi j'aurais souhaité que la CI puisse multiplier les kits de sorte que là où il y a la sécurité, on puisse facilement passer à l'opération et résoudre le problème de ceux-là qui viennent s'arrêter parce qu'ils sont nombreux. Les gens viennent, ils bougent de tout le coin de la province pour venir s'arrêter, mais comment les faire?
Voilà.
Ils doivent faire une semaine dans un centre et ça, c'est tout un problème.
Je rappelle à nos auditeurs également que nous avons tenté de joindre aussi la CEI pour participer à cette émission, mais cela n'a pas été possible pour répondre à certaines de nos questions. Nous avons dans ce studio Sabin Banza, qui est le vice-président de la Ligue des électeurs. Quelle est votre réaction à entendre les problèmes logistiques liés aux problèmes également d'insécurité qui ne facilitent pas les opérations d'enrôlement, notamment à l'est du pays?
Oui, merci pour la question. Mais je regrette beaucoup parce que, à notre sens, l'étape de Kinshasa, l'étape de Bas-Congo et l'étape, les autres étapes devaient servir de leçon à la commission électorale indépendante pour déployer suffisamment de matériel pour faire enrôler. Mais si j'apprends ici que sur je ne sais pas combien de kits, une quarantaine ou 70 ou quelque chose, et on a déployé un peu de kits. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, nous avons appris que la MONUC aidait à transporter le matériel. Mais les problèmes techniques sont là. Les problèmes techniques sont là. Et la CI doit faire un effort pour améliorer. Parce que le fait qu'il y ait un kit, une seule machine, dans un centre d'inscription, en autre sens, une machine telle que les choses ça se passe, c'est que au moins on avait projeté 7 minutes, 5 à 7 minutes pour un électeur. Et si vous prenez, ils font 8 heures. Dans les 8 heures, dans une heure, il y a 60 secondes et 60 minutes divisé par 7. Vous avez environ 9, vous avez environ 9, hein, quelque chose comme ça. Alors, si vous multipliez maintenant par 8 heures, vous avez environ 64 personnes, ou c'est 72 personnes qu'on doit inscrire par une machine en une journée, si quelqu'un travaille normalement. Mais quand vous avez maintenant plusieurs une personne qui travaille très lentement, la vitesse de saisie est réduite, et donc le nombre d'inscrits doit aussi diminuer. Alors si il faut absolument qu'on ajoute les machines pour que on puisse inscrire suffisamment de gens, et que moi je conseille que on ne puisse pas arrêter le processus d'inscription des électeurs, qu'on continue à inscrire les électeurs. Moi je pense même que la CI peut prendre une mesure de laisser des bureaux permanents dans chaque province pour avoir la chance d'inscrire plusieurs personnes. Parce que s'il y a, même par commune, par exemple, ici à Kinshasa, si on avait laissé par commune un kit ou une machine pour inscrire...
Mais ici à Kinshasa, il y avait au moins deux kits dans
oui, il y avait des kits, mais on n'a pas atteint les projections qu'on voulait. Donc on s'est approché...
Donc notre question, c'est pourquoi cette différence de traitement entre Kinshasa et l'intérieur du pays?
Oui, je ne sais pas. Normalement, selon les prévisions de la CEI, il y avait 9000 centres d'inscription. Ce qui fait que si on a dit deux machines par centre d'inscription, c'est qu'il fallait environ 18 000 kits. Bon, tel que nous avons appris, et toujours par les projections de la CEI, c'était il devait prendre 10 000 kits. Donc, je constate maintenant que tous les kits ne sont pas arrivés, selon les informations que nous avons. Parce que les kits devaient être envoyés dans les centres d'inscription au même moment et nous commençons les opérations au même moment. Maintenant, on y va progressivement. J'ai appris même qu'on prend des kits, aussi certains kits qui sont dans certaines provinces, on les amène dans les autres provinces. C'est que les prévisions de la CI n'ont pas été respectées. C'est qu'ils ont eu moins de machines qu'il fallait. C'est ça, ça pose problème. À Kinshasa, on est venu, c'est une ville, on vient avec... il y avait, à l'époque, on nous avait dit qu'il y avait 2000 ou 6000 kits qui étaient arrivés. Donc, c'était facile de les déployer à Kinshasa. Même à Kinshasa même, on est allé progressivement. On n'a pas ouvert les bureaux, tous les bureaux au même moment. Donc, on l'a fait avec l'arrivée des kits, etc. Donc, il faudrait vraiment que la CI se rattrape et continue, fait, ouvre des bureaux permanents d'inscription des électeurs.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Voilà, vous avez une question qui vous est adressée, Monsieur Sabin Banza. Vous êtes le vice-président de la Ligue des élections, une ONG spécialisée dans l'organisation des élections. La question nous vient de Monsieur Mirugi Nestor de Kisangani dans la province orientale, qui nous l'envoie par SMS. Comment votre organe appréhende-t-il le processus d'enrôlement en RDC? Pourriez-vous avoir quelques suggestions à faire?
La suggestion, c'est comme je dis. Première suggestion, il faut qu'on continue à enrôler les électeurs jusqu'à quelques jours des élections. C'est que il faut donner la chance à tous les électeurs potentiels de se faire enrôler. Donc ça ne sert à rien. Je ne sais pas qui est-ce qui pousse les gens ou la CI de limiter l'inscription à 3 semaines. Ils peuvent aller jusque même à 1 semaine. Dans certains pays, on va même jusqu'à 48 heures des élections. Comme c'est prévu que
On enrôle jusqu'à 48 heures
des élections. Dans certains pays, ils vont jusqu'à 48 heures pour clôturer la liste électorale.
Mais il n'y aura pas de risque de tricherie là.
Nous, on ne va pas se permettre d'aller jusqu'à 48 heures parce que
dans la précipitation, il peut y avoir.
Nous n'avons pas les. Mais il faut suffisamment. C'est-à-dire que comme le référendum est prévu au mois de novembre, on peut aller jusqu'à tout le mois d'octobre. En train de continuer à inscrire les électeurs jusqu'à la fin. Mais maintenant, il faut que les centres de traitement de données puissent commencer à travailler pour rassembler les données et les faire. Alors, deuxième chose, c'est que on doit intensifier, notre ami, deuxième chose, c'est qu'il faut intensifier la campagne d'éducation civique, la campagne d'appeler la population à aller se faire enrôler. Alors, il faut minimiser, troisième chose, il faut minimiser tout ce qui décourage la population. C'est-à-dire que il faut être sérieux dans l'identification de la population, dans l'identification des gens qui vont se faire enrôler, parce que ça s'est fait d'une manière légère, et ça décourage un peu. Il faut suivre ce que la loi dit. La loi dit qu'il faut amener telle carte. Il faut que ça soit cette carte-là. Il ne faut pas prendre d'autres et dire, bon, on peut accepter ça, on ne peut pas accepter, etc. On nous apprend que dans certains coins, il y avait des militaires qui se sont fait enrôler. Il faut faire tout pour que ces militaires ne s'enrôlent pas. Parce que ça décourage. Ça décourage la population.
Voilà. Je rappelle les deux questions principales que nous nous posons dans l'émission de ce soir. Comment faire avancer le processus électoral malgré l'insécurité à l'est du pays? Et la deuxième question, est-ce que la tenue des élections constitue une solution à l'insécurité à l'est du pays? Nous allons nous rendre dans le sud Kivu, retrouver le coordonnateur principal de la CEI Sud Kivu, qui va nous brosser le tableau des opérations électorales dans le Sud Kivu. Il est interviewé par notre consoeur Thérèse Kanko.
Oui, madame, vous parlez du territoire de Walungu, il est devenu tristement célèbre. Mais je vous apprends qu'il y a 15 centres d'inscription qui fonctionnent dans ce territoire depuis 3 jours. Et hier, ce territoire a enregistré 447 identifiés. Eh bien, on y va progressivement. Le centre provincial des opérations est en train d'étudier les mesures pratiques à prendre pour que la population du territoire de Walungu soit identifié sans beaucoup de difficultés, hein, bien à temps, en ayant hein, les temps impartis. Il y a des endroits qui sont encore rouges, mais le centre provincial des opérations est en train de mettre sur pied une carte hein, des opérations pour qu'on sache exactement à tel endroit ce qu'il faut faire, quel renfort il faut préparer hein, pour pouvoir sécuriser la population. Donc, on n'y va pas tout d'un coup, hein, tout d'un trait, mais on examine au fur et à mesure hein, les endroits qui sont insécurisés, comment on peut recueillir les informations sur ces endroits et comment on peut ouvrir les centres suffisamment sécurisés et par l'armée et par la police et même par l'armée de la MONUC.
Mais cela ne risque pas de prendre trop de temps vu le temps imparti pour l'opération d'identification.
Vous savez, madame, on ne peut pas fermer un centre qui n'a pas encore ouvert. Hein, normalement, on a 3 semaines de travail et étant donné toutes ces contraintes, eh bien, on ne peut pas dire qu'on ferme déjà un centre qu'on n'a pas encore ouvert. Ou bien, on va examiner le terrain et le terrain est en train de nous dicter la méthode. Hein, ce soir, le centre provincial des opérations sera encore en réunion, même avec l'autorité provinciale pour que des stratégies pratiques soient prises pour que la population de Walungu soit également identifiée.
Voilà, c'était là le président, le coordonnateur provincial de la CEI dans le sud Kivu qui était interviewé par notre consoeur Thérèse Kankou. Nous avons maintenant en ligne le gouverneur intérimaire du sud Kivu, monsieur Didas Kaningini. Monsieur Didas Kaningini, bonsoir. Monsieur Didas Kaningini, bonsoir. Voilà, décidément, il n'est pas en ligne. Mais d'après vous, comment est-ce qu'il y a, dans ce reportage que nous, dans cette interview que nous venons de suivre, il se manifeste concrètement un problème d'insécurité, notamment dans le sud Kivu. Il y a certains territoires où la CEI ne peut pas déployer ses bureaux et son matériel. Comment on peut faire pour faire avancer quand même, excusez-moi la tautologie, faire avancer le processus électoral malgré l'insécurité vraisemblable dans le nord et dans le sud Kivu. Vous êtes dans le nord Kivu, monsieur Jason Luneno, président de la société civile du Nord. Comment faire avancer le processus électoral à l'est du pays malgré vos problèmes d'insécurité? Brièvement.
Je pense que la première chose qui devait être faite devrait être celle de considérer que le plan qui a été établi par la CEI rencontre beaucoup de difficultés dans la mesure où nous pensons que la CEI a sous-estimé vraiment ce qu'il fallait faire sur le terrain. Alors nous, on pense que ce que notre ami Banza a dit est tout à fait correct, qu'il faudra penser à aller au-delà des 3 semaines prévues, de sorte à avoir le maximum de personnes qui s'identifient et qui s'enrôlent. Ensuite, nous pensons aussi que ce processus ne pourra se aboutir à de bons résultats dans la mesure où nous essayons d'encourager le personnel recruté à cet effet. Il y a partout dans les centres d'inscription des personnels qui sont là de 6h à 18h, qui ne sont pas motivés, qui n'ont rien à... qui manquent même un petit bonbon à mettre sous la bouche.
Oui, oui, oui.
On a sous-estimé.
Exactement. On a compris ce que vous avez, vous voulez dire. Nous avons suivi un reportage de notre consoeur Broy Munganga qui nous parle de problèmes d'insécurité dans le sud Kivu, à tel point qu'il y a certaines populations, même du territoire de Walungu, dont la CEI a proposé à ce qu'ils se déplacent pour aller se faire enrôler. Sabin Banza, est-ce que c'est d'abord un problème de moyens ou c'est tout simplement qu'il faut prolonger la période de l'enrôlement pour, je ne sais pas, trouver une solution au problème d'insécurité qui freine quand même les opérations électorales dans le sud Kivu et à l'est du pays?
Oui, je pense que on a créé un comité pour la sécurité des élections. Et ce qui a eu l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas associer même la population elle-même dans la sécurisation de ces opérations. C'est pourquoi j'ai dit que la sensibilisation n'a pas été faite comme il le fallait. Là où il y a la population qui est prise en otage par des groupes armés, etc., je ne sais pas où se trouve notre armée pour sécuriser ces personnes. Mais il y a aussi ces mêmes personnes, s'ils vont se faire enrôler, dès qu'ils rentrent dans leur habitations, ils se retrouvent devant ces mêmes gens, ces mêmes groupes armés.
Et qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous?
Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les déloger. On nous a parlé d'une que la MONUC a été dans une opération de chercher à déloger ces FDRL, quelque chose comme ça. Mais il faudrait que le pouvoir en place ici prenne des mesures concrètes pour mettre hors d'état de nuire ces personnes-là. Si on n'arrive pas à les mettre hors d'état de nuire, je crois qu'il y aura une bonne partie de la population qui ne va pas être se faire enrôler.
Ça va peser sur la crédibilité des élections.
Oui, ça va peser sur la crédibilité des élections parce que ces gens-là ne vont pas participer aux élections pendant qu'ils le voulaient. Et s'ils ne participent pas aux élections, vous savez que les élections jouent aussi le rôle d'autodétermination d'un peuple. C'est comme si ils ne participent pas aux élections, c'est comme si on les écarte de leur appartenance à la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire qu'on a refusé qu'ils soient des Congolais. Et donc, avec ça, ces gens-là peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. Donc, il faudrait que ces élections-là, que tout le monde soit dedans, tout le monde participe.
Mais vous attendez par là le 100% d'enrôlés potentiels?
Non. Ceux qui ont la volonté d'aller se faire, de participer aux élections, qu'ils arrivent à se faire enrôler.
Et le minimum, ça serait combien? Que 100% d'enrôlés estimés par la CEI aient leur carte d'électeur pour que les élections soient crédibles, ou bien 80%, 60%? Bon, vous qui êtes membre d'une ONG spécialisée dans l'organisation des élections.
Compte tenu des fonctions de notre élection, les fonctions que notre élection doit remplir, je crois qu'il faut aller jusqu'au score de 80% des inscrits.
Voilà. Sans transition, passons directement à la deuxième grande question que nous nous posons dans cette émission. Est-ce que la tenue des élections est une solution au problème de l'insécurité à l'est du pays? Nous avons en ligne depuis le Nord Kivu, à Goma, Jason Luneno, vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Est-ce que vous pensez que la tenue des élections peut mettre fin au problème de l'insécurité à l'est du pays, non seulement dans les Kivu, mais aussi au Nord Katanga où des Maïmaï sèment aussi le désordre?
Oui, moi je suis vraiment très convaincu que la tenue des élections peut résoudre très très grandement la question de l'insécurité que nous connaissons dans cette partie du pays.
Comment concrètement, oui?
Oui, dans la mesure où, vous savez, le gouvernement, les institutions et toutes les autres structures que nous avons aujourd'hui, ce sont des structures qui sont au pouvoir. Nous savons comment toutes ces structures sont arrivées au pouvoir. Et ce sont des structures qui sont là, qui se servent, où chacun fait tout pour accéder au pouvoir, non pas pour servir le peuple, mais pour essayer de se servir de la manière sait qu'après une période bien déterminée, ça sera peut-être la fin. Alors les gens sont là pour se servir. Vous avez vécu vous-même la situation avec le partage des entreprises.
Oui, Monsieur Jason Luneno, pour recadrer le débat,
oui.
Comment concrètement la tenue des élections en RDC pourrait mettre fin au problème de l'insécurité créée par les groupes armés rwandais, par exemple, qui sévissent au Nord Kivu? Concrètement, comment?
Oui, c'est là que je voudrais aller. Je voudrais vous dire que à partir du moment que nous aurons un pouvoir légitime, un pouvoir qui est issu des urnes, ce pouvoir va répondre directement de l'interpellation de la population. Lorsque le pouvoir qui est là n'a pas des assises populaires, la population ne se retrouve pas dans ce pouvoir-là. Ceux qui sont là ne sont pas en train de rendre compte. Comment voulez-vous que ce pouvoir-là puisse directement comprendre et comment résoudre les problèmes de la population et asseoir des mécanismes qui puissent permettre à ce pouvoir de se rapprocher beaucoup plus de la population? Moi, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de responsabilité. Un problème de responsabilité dans la mesure où ceux qui sont là se sentent moins responsables vis-à-vis des gouvernés. Alors, nous pensons que nous avons beaucoup de difficultés avec les intérêts à moi. Alors, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont en train de s'observer. Il n'y a pas celui qui décide, qui a eu la majorité, et ce sont ceux qui sont donc au niveau de l'espace, de l'exécutif, qui sont encore en train de, je peux me permettre de le dire, s'observer. Ils ne permettent pas à l'un à l'autre de mener une action
qui puisse produire beaucoup de trains sur le terrain. Il se contrecarre, il se lance.
Voilà, nous allons,
nos pieds.
Nous allons demander également.
Oui,
nous avons compris. Monsieur Djebo Luneno.
Ce gouvernement-là, ça s'est comporté à conséquence et ça directement attaquer les problèmes qui sont soulevés par la population, les problèmes que la population est en train de rencontrer.
S'il vous plaît, Jason Luneno,
nous allons aller aux élections pour avoir un pouvoir qui se donne à la résolution des problèmes spécifiques que nous rencontrons sur le terrain.
Oui, Jason, nous donnons la parole à Sabin Banza. Est-ce que vous pensez que la solution au problème d'insécurité à l'est du pays est liée à un problème de responsabilité des dirigeants actuels qui n'ont pas été élus et que selon M. Jason Luneno, si nous avons des dirigeants qui sont élus par le peuple, ils pourront se saisir de problèmes d'insécurité, saisir le taureau par le corne afin de trouver une solution.
Oui, je pense que M. Jason a plus ou moins raison, parce que la question que vous lui avez posée, est-ce que les élections peuvent résoudre les problèmes d'insécurité? Je me dis, c'est comme si on demande, est-ce que l'œuf et la poule qui vient avant? Et donc, parce que on a besoin de la sécurité pour organiser les élections, et puis on se dit, mais les élections peuvent résoudre la question de l'insécurité. Mais je pense que les élections peuvent résoudre la question de l'insécurité si au moins tous les électeurs sont inscrits. Alors, en ce moment-là, nous aurons un pouvoir légitime, comme il a dit, un pouvoir qui a l'assise populaire. Mais il faut que, à l'issue des élections, qu'on trouve un gouvernement responsable. Parce que maintenant, on a l'impression que le gouvernement actuel n'est pas responsable. Il ne sait pas prendre des mesures et exécuter ces mêmes mesures. Parce que tout simplement, c'est un gouvernement composé des composantes. Et les composantes s'anéantissent. Et quand ils s'anéantissent, ils ne peuvent pas fonctionner. Et donc, il suffit seulement qu'une composante ne puisse pas être d'accord sur une mesure. Cette mesure aura des difficultés d'être exécutée.
Donc, vous rejoignez l'idée de M.
Oui, donc il faut un gouvernement cohérent
qui pourrait prendre en main le problème d'insécurité à l'est du pays. Il y a une opinion de Ousseigny, de M. Ousseigny de Bukavu qui nous envoie son message par SMS. Les élections dans leur forme actuelle ne sont pas une solution au problème de l'insécurité à l'est. D'autant plus que les mêmes autorités qui organisent ces soi-disant élections n'ont pas le souci de terminer l'insécurité car c'est devenu un champ de commerce pour eux. À Sabin Banza, il y a eu une question de M. Adrien Matendele du Bas-Congo qui nous écrit par SMS. Pensez-vous que les élections au Congo seront différentes de celles qui ont été organisées au Togo?
Je suis sûr que le Congo n'est pas le Togo. Et je suis sûr que nous avons fait énormément de travail pour que les élections au Congo ne soient pas comme celles du Togo. Mais tout cela, il faut qu'il y ait l'engagement de nous tous. S'il n'y a pas l'engagement de tous les citoyens congolais, nous risquons d'aller dans le sens des élections. C'est comme ça que nous avons proposé, que dans la sécurisation des élections, que la société civile puisse, ou la population, puisse être incluse dans la sécurisation. Parce que vous avez vu au Togo qu'il y avait des militaires qui étaient promis à la sécurisation des élections, et ces mêmes militaires ont récupéré les urnes et ils en font fait ce qu'ils ont fait. Mais si ces militaires sont observés par la population elle-même, qui a pris en charge la sécurité de ces élections, les élections seront différentes de celles de Togo.
Voilà. Comment faire avancer le processus électoral malgré l'insécurité à l'est du pays? Est-ce que la tenue des élections constitue une solution à l'insécurité à l'est du pays? Telles étaient les deux grandes questions que nous avons abordées ce soir avec Sabin Banza, vice-président de la Ligue des électeurs, avec Jason Luneno depuis le Nord Kivu, président de la société civile du Nord Kivu. Malheureusement, nous devions avoir Didas Kaningini, vice-gouverneur du Sud Kivu. Cela n'a pas été possible techniquement. Merci et à demain pour une autre édition de Dialogue entre Congolais.
Okati, okati.